l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Dans les rues et sur les piquets, entre le 10 et le 18 septembre, on a beaucoup parlé du Népal, où la génération Z a dans une révolte éclair incendié la quasi-totalité des lieux de pouvoir de la capitale et fait démissionner un gouvernement corrompu. Or, le soulèvement népalais a pris racine en Indonésie. Retour sur cette boule de neige continentale pour le deuxième épisode de l'actu des oubliés. Yo, this is the voice of the youth, from the Himalayas to the world. En Indonésie, à la mi-août, il est annoncé que l'indemnité logement des députés est augmentée, atteignant l'équivalent de 2600 euros, de 10 à 20 fois le salaire minimum indonésien. Cette allocation nouvelle avait déjà suscité la colère lors de sa création il y a un an, alors que les représentants du peuple gagnent déjà 5000 euros par mois, soit 30 fois le salaire minimum. En parallèle, malgré une croissance du PIB de 4% par an ces 10 dernières années, le salaire moyen n'a grimpé que de 0,6%, sans compter que l'augmentation de l'allocation logement des députés survient 10 jours après que le président Subianto ait annoncé de nouvelles mesures d'austérité, alors que la roupie connaît cette année sa pire dévaluation en près de 30 ans. La situation économique fait déjà l'objet de rassemblements et de grèves sectorielles ou régionales. Dans les provinces, en particulier sur l'île de Java, on manifeste début août contre l'augmentation de la taxe foncière. L'histoire des allocations des députés vient donc alimenter la colère sur une autre thématique récurrente dans le pays, le détournement de l'argent public par les élus, la corruption et l'indécence de leur train de vie. D'abord, la politique est devenue une culture de l'argent. Les politiciens sont des personnages aisés qui consacrent beaucoup de sous à leur campagne et parviennent par le clientélisme, voire par l'achat de votes, à se faire élire. Une vidéo montrant les députés du parti au pouvoir danser joyeusement au Parlement pour l'augmentation de leur allocation logement soulève l'indignation sur les réseaux, où régulièrement les images du faste train de vie de l'élite fait scandale. Lorsque les premières manifestations surviennent, certains élus se moquent de la foule et font étalage de leur richesse. C'est dire le mépris de classe éhonté qui les anime. Ahmad Saroni, un député particulièrement aisé, lâche dans une interview que les manifestants sont les personnes les plus stupides sur Terre, tout en rappelant toute l'étendue de sa puissance et de sa richesse. Quelques jours plus tard, l'une de ses maisons sera littéralement pillée. Sur les réseaux, les gens sortent de sa demeure en paradant vêtus de ses bijoux personnels, déménageant ses objets de luxe, dont une statue à taille humaine d'Iron Man. Rahmat Hidayat, sociologue à l'Université nationale de Jakarta, déclare au Jakarta Post.
Cette vague de protestation est l'aboutissement des griefs qui se sont accumulés non seulement ces dernières semaines, mais au cours de la dernière décennie. Nombreux sont ceux qui ont enduré en silence des difficultés croissantes, jusqu'à ce que le spectacle des généreux avantages et des allègements fiscaux accordés aux députés devienne trop amer pour être ignoré.
Ce sont d'abord les milieux étudiants et syndicaux qui se mobilisent, avec à Jakarta le mot d'ordre « Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai ». L'Indonésie est sombre, nous commençons la révolution. Les premières revendications exigent les démissions du président et du vice-président, du gouvernement et de tous les députés. D'après Asialist, c'est dès l'après-midi que surviennent les premiers affrontements, alors que la police tente d'empêcher les cortèges étudiants de rejoindre la manifestation syndicale. En trois jours, les rues du pays sont pleines. Les cortèges étudiants emplissent les artères des grandes villes, tandis que les syndicats multiplient les appels à cesser le travail. Le 28 août, les étudiantes et étudiants se réunissent devant le Parlement et tentent de s'y introduire. La police intervient violemment et les émeutes se poursuivent jusque dans la soirée. C'est alors qu'un camion blindé de la BRIMOB, la brigade mobile, fonce dans la foule, percute un homme, s'arrête et repart finalement en lui roulant dessus. Afan Kurniawan meurt peu de temps après, à l'hôpital. On apprend alors qu'il est chauffeur de mototaxi informel, même pas manifestant puisqu'il était en train de livrer un repas au moment de se faire renverser. L'assassinat assomme le pays et répand la colère. Dans la nuit, le quartier général de la Brimob est attaqué. Le lendemain, à la première heure, les conducteurs de mototaxi en font le siège tandis que les plus jeunes attaquent le siège de la police nationale. La Brimob est une unité paramilitaire liée à la police indonésienne qui s'est illustrée dans plusieurs cas de violence ces dernières années. Elle est notamment mise en cause lors des débordements au stade de Malang, lors d'une rencontre de football. Les tirs de gaz lacrymogène avaient alors affolé la foule et dans la panique, 135 personnes avaient trouvé la mort. Depuis, la Brimob est régulièrement mise en cause et de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger sa dissolution. Car outre la situation économique et la corruption, l'autoritarisme et le verrouillage du pouvoir par une minorité suscitent une profonde inquiétude. Le président Subianto est un ancien du dictateur Suharto tombé en 1998, et pas n'importe lequel. Non seulement il est marié à la fille du dictateur, mais dans son rôle de général en 1998, il était chef de la répression, soupçonné d'être le commanditaire de centaines d'assassinats d'opposants. En outre, il gouverne avec comme vice-président le fils du dernier président, avec qui il a fait alliance alors qu'ils étaient anciennement opposants. Les combines politiques et le clientélisme font partie intégrante du système politique indonésien, ce qui suscite la méfiance de la population. C'était l'une des raisons principales du soulèvement de l'année dernière, en août 2024. La crainte de la constitution d'une dynastie politique par l'ancien président Joko Widodo via l'appui de Subianto, le président actuel, qui ne serait finalement qu'un pont entre le père et le fils. D'autre part, plusieurs décisions rappellent les mauvaises heures de la dictature. En premier lieu, le pouvoir et les ressources publiques se concentrent de plus en plus près de l'île de Jakarta et de la capitale. Le régime se présidentialise et les proches du président sont accusés de corruption. Les agences gouvernementales responsables des droits humains ou de la lutte contre la corruption ont été considérablement affaiblies par l'ancien président, qui nourrissait en parallèle des projets mégalomanes et pharaoniques, comme le fait de construire à partir de rien et en plein marécage une nouvelle capitale pour le pays. Le chantier est ruineux et toujours en cours alors qu'il devait s'achever en 2024. De nouvelles lois viennent enfin criminaliser la lutte sociale, en élargissant la définition du terrorisme et de la désinformation afin de pouvoir poser ces termes sur toute forme d'opposition. Bref, l'éventail répressif de l'État ne cesse de s'élargir. Enfin, depuis mars dernier, les officiers militaires ont le droit d'occuper davantage de postes politiques. Et symbolique mais inquiétant, ils ont désormais le droit de conserver leur uniforme dans leur fonction civile. Dans l'ensemble, Widodo et Subianto s'éloignent donc des grandes lignes du réformatie qui avait cours depuis la dictature, à savoir mise à distance de l'armée loin du pouvoir, décentralisation, démocratisation, diminution de la violence d'État, tentative de réduction de la corruption et des inégalités sociales. We ain't afraid, we break the chain, from Kathmandu streets to Terai Plain. Voices loud, like thunder's roar, freedom's fire inside our soul. Smartphone hack my dreams online, you need to let your new headline. La mort d'Afan est donc ressentie comme le meurtre d'un jeune travailleur populaire qui galère avec un emploi informel par la police spéciale d'un régime de plus en plus autoritaire et liberticide, qui ne défend plus qu'une élite corrompue dont les enfants se pavanent sur les réseaux sociaux. La lutte contre les violences policières s'ajoute alors à celle contre les inégalités et la contestation d'une élite politique déconnectée des besoins de la population. La colère se répand dans toutes les couches de la société indonésienne et dans l'ensemble de l'archipel. Les revendications gonflent, on réclame désormais un contrôle strict de l'intervention de l'armée dans la société civile, on dénonce la violence policière et les arrestations arbitraires. Sur les réseaux, le hashtag BourbakanDPR, dissoudre la chambre des représentants, devient viral. Le lendemain, les funérailles d'Afan commencent par une procession de milliers de mototaxis qui occupent les artères de Jakarta. Dans toutes les villes d'Indonésie, la colère explose. Symbole de la corruption du monde politique, 37 parlements régionaux sont attaqués et 8 sont incendiés, comme à Makassar, Mataram ou Kediri. Le soir même de ce 29 août, le président Prabowo Subianto intervient à la télévision, annonçant la réduction des avantages des députés et l'annulation de l'augmentation de l'indemnité logement. D'autres allocations sont suspendues, ainsi que le financement de voyages à l'étranger. Il est annoncé que les 7 policiers présents dans le camion lors de la mort d'Afan seront jugés pour avoir violé le code d'éthique de la police, placé en détention spéciale, et l'un d'eux est immédiatement démis de ses fonctions. Dans le même temps, le président déploie l'armée dans la capitale et accuse la trahison et le terrorisme des émeutiers et émeutières, ce qui fait craindre une criminalisation encore plus grande du mouvement. Autrement dit, Vous obtenez de petites satisfactions pour cette fois, mais il n'y aura désormais plus de limites à notre violence. Or, le samedi 30, les manifestations reprennent de plus belle. Les maisons de plusieurs députés, ainsi que celles de la ministre des Finances, qui appelle depuis plusieurs semaines à l'austérité, sont attaquées. Les pillages sont diffusés en direct sur les réseaux, à tel point que TikTok décide de suspendre sa fonction live dans le pays pour que ça ne donne pas d'idée à d'autres. La répression devient de plus en plus féroce. D'autres personnes sont tuées par la police, décuplant la colère. Le peuple tente parfois de répondre, comme à Surabaya, où le commissariat central est attaqué par des milliers de personnes, pillées et incendiées. Le 1er septembre, une liste de revendications est établie. Elle comporte 17 plus 8 demandes. 17 d'abord, en référence à la date de la fête nationale du 17 août. 17 revendications à satisfaire immédiatement. Vérité et justice pour Afan et toutes les personnes victimes de répression policière. Renvoi de l'armée dans les casernes. Amnistie pour toutes les personnes qui ont manifesté. Certaines revendications économiques aussi, telles que la garantie d'un salaire décent pour tous. L'interdiction des licenciements massifs et la protection des contrats précaires. Puis une série de revendications visant à la probité et à la transparence des députés, ainsi qu'à l'obligation de dialogue avec les organisations populaire et à l'instauration de sanctions pour les députés qui trahiraient leur mandat. Les 8 autres revendications, elles, comportent un échéancier à un an plus tard. Nettoyer et réformer en profondeur la Chambre des représentants, réformer le système des partis politiques, renforcer le contrôle sur le pouvoir exécutif, présenter un plan de réforme fiscale plus équitable, adopter et appliquer la loi sur la confiscation des biens des personnes condamnées pour corruption, renforcer la commission anticorruption et la commission pour les droits humains, réformer la police et réviser en profondeur les politiques économiques et sociales. À la suite de l'établissement de ces revendications, la Chambre des représentants se réunit et accepte de se défaire de certains de ses privilèges, à commencer par l'allocation logement. Le 7 septembre, les forces armées acceptent à leur tour les revendications du peuple en assurant qu'elles regagneront leurs casernes, qu'elles ne chercheront pas à s'impliquer dans des questions de sécurité relevant de la police et qu'elles respecteront la suprématie du civil. Le lendemain, le gouvernement est modifié en profondeur, avec notamment l'écartement de la ministre des Finances controversée. Mercredi 3 septembre, des centaines de personnes sont encore devant le Parlement à brandir des pancartes colorées imprimées de phrases comme « balayez les saletés de l'État » ou « vos 12 promesses donnent le diabète ». Yo, we the future, the present, the flame, breaking the borders of power and name, peace, right, justice, hamro demand, Nepal ko youth, strong we stand, ekta satya hamro gun, sunshine just. Sur le site d'Europe Solidaire Sans Frontières, Edward Aspinall estime que la dynamique protestataire en Indonésie se rapproche de plus en plus de celle des années 90, qui avait mené à la chute de la dictature. D'une part, la culture de la protestation chez la jeunesse s'oriente de plus en plus vers une volonté de mettre fin au régime. C'est tout le système de la réformatie que l'on veut faire tomber, et l'entretien d'une caste qui se renouvelle sans cesse au pouvoir. Dans les deux cas, dit Aspinall, la situation économique est première responsable d'un mécontentement larvé dans la population. D'autre part, c'est la violence d'État qui entretient la détermination de la contestation. En 1998, c'était la fusillade de l'université de Trisakti à Jakarta qui avait enclenché le mouvement final vers la chute du régime. En 2025, c'est le meurtre d'Afan qui déclenche les émeutes. La force du soulèvement, en 1998 comme aujourd'hui, réside enfin dans sa répétition. La chute de Suharto a été précédée de plusieurs années de contestations incessantes dans le milieu étudiant comme dans les classes populaires, forgeant à la fois des idées et pratiques politiques novatrices et des expériences de confrontation avec les forces de sécurité qui permettent d'entrevoir la chute du régime non plus seulement comme une lointaine perspective, mais comme possible et nécessaire. Août 2025 est en effet la cinquième vague d'intenses protestations depuis 2019, toutes marquées par un dynamisme dans les actions et les idées, par une diffusion de plus en plus large des idées anarchistes, comme nous en parlions dans un épisode déjà consacré à l'Indonésie dans la saison 5. Le mouvement d'août 2024, Peringatan Darurat, avertissement d'urgence, en était un bon exemple. En février dernier, à nouveau s'allumait une étincelle, nommée cette fois Indonesia Gelap, Indonésie sombre, par opposition au slogan du gouvernement Indonésie dorée. Le milieu étudiant dénonçait alors les coupes budgétaires face à l'éducation et à la santé, et déjà les politiques répressives au sommet de l'État, ce à quoi le tout nouveau président avait répliqué que les étudiants étaient payés pour lui nuire. Le 17 février, ce sont ainsi des milliers de personnes qui descendaient dans les rues de plusieurs villes. Marque de l'animosité contre la classe dirigeante et symbole numéro 1 de la révolte récente, le drapeau pirate à chapeau de paille se répand dans le pays à partir de la fin du mois de juillet. Ce Jolly Roger, revisité par le manga One Piece, est le symbole des bandes de pirates qui se battent pour leur liberté contre un régime autoritaire, aux élites corrompues et aux institutions dysfonctionnelles. Facile d'établir un parallèle avec la société indonésienne. Or en août, c'est le mois des drapeaux. On affiche traditionnellement ses couleurs, en premier lieu celle du pays. Cette année, le président lui-même avait appelé à afficher à sa fenêtre la bannière indonésienne, jouant sur la fibre nationaliste. Or, à de très nombreuses fenêtres, c'est le Jolly Roger de One Piece qui est levé pour exprimer son désaccord avec la classe dirigeante, à tel point que le ministre des Droits Humains affirme que le drapeau sera interdit lors de la fête nationale. Faute de base légale à une telle déclaration, rien ne peut être fait pour empêcher la piraterie de prendre le contrôle des balcons. Lorsque les manifestations éclatent, le drapeau à chapeau de paille est naturellement partout. Il témoigne lui aussi de l'émergence d'une nouvelle forme de protestation, marquée par une antipathie profonde à l'égard des élites. Elle rassemble les éléments de nouvelles formes de résistance à travers le monde. L'omniprésence des réseaux sociaux pour s'organiser est comme source d'informations interne au mouvement. Des rapports humains de plus en plus horizontaux, sans leader, sans pour autant abandonner les connexions avec les syndicats ou les organisations étudiantes, qui demeurent des outils de veille très présents, surtout au début des mouvements. C'est la qualité rhizomique, selon le terme de Deleuze et Guattari, qui constitue de plus en plus de soulèvements contemporains. Cette qualité est parfois célébrée pour sa flexibilité qui les rend très complexes à démanteler pour les autorités, parfois critiquée pour l'absence de lignes directrices qui parfois semblent les maintenir loin d'une victoire finale. Alors certes, en Indonésie, la vague retombe après ces quelques victoires. C'est qu'après une dizaine de morts avérées, une vingtaine de disparus et un demi-millier de personnes blessées, certaines organisations parties prenantes de la lutte annoncent qu'il devient trop dangereux de manifester. Après le 6 septembre, les manifestations se poursuivent plus doucement. Made Supriyatma, chercheur à l'Institut ISEAS, commente dans Courrier International « Si la capitale s'est calmée, le mouvement est loin d'être éteint. Les manifestations se déplacent désormais vers les régions. » Or, près de 4500 km au nord-ouest de Jakarta, une autre révolte se prépare. Au Népal, tout le pays a suivi sur les réseaux la révolte indonésienne. Il l'a même soutenue, notamment en achetant des repas en ligne en solidarité. C'est désormais quelque chose qui se fait régulièrement en Asie et qui a été baptisé Siblings, contraction de SEA, l'abréviation de Southern East Asia, Asie du Sud-Est, et Siblings, qui signifie frères et sœurs. Lorsqu'un peuple est dans la rue, on peut depuis l'étranger acheter des cafés suspendus ou des repas solidaires pour les personnes qui luttent via les sites internet des cafés proches des lieux de manifestation. Ainsi sur place, n'importe qui peut venir consommer gratuitement une boisson chaude ou un repas. La diaspora coréenne l'a énormément utilisé l'hiver dernier et la recette se diffuse désormais dans tout le continent asiatique. Cette fois, c'est de Malaisie, de Thaïlande ou des Philippines que des internautes ont payé des repas en ligne, d'abord en solidarité avec le chauffeur de mototaxi après l'assassinat d'Afan par la police. This one's for them souls who lost their lives in the protests. La racine de la colère est très similaire entre le Népal et l'Indonésie. Rest in peace. Le régime népalais est lui aussi un régime profondément clientéliste, népotiste et corrompu, en décalage complet avec le niveau moyen dans le pays et la difficulté pour le commun des mortels à voyager loin des frontières. Les élites, en particulier la jeunesse dorée de Katmandou, se vautrent dans le luxe et se pavanent sur les réseaux pour exhiber les voyages qu'elles se payent à l'étranger. On leur donne même un nom, les Nepo Kids. De népotisme, qui est l'art de distribuer des faveurs à ses proches lorsque l'on est au pouvoir, et kids, enfants. Plus que tout pour dénoncer l'indécence de cette démonstration de richesse, parfois pour s'en moquer, les vidéos postées par les Nepo Kids sont de plus en plus largement partagées et commentées par des gens du peuple. Et ça devient une véritable mode. De manière croissante, la colère accompagne les publications. En fait, l'idée vient déjà d'Indonésie, et les deux mouvements sont dès lors intimement liés, alors qu'au même moment, Jakarta est déjà en proie aux flammes. Ayusha, 18 ans, explique dans Mediapart.
Les étudiants indonésiens postaient sur TikTok des vidéos contre les fils de politiciens corrompus, qui étalent un mode de vie fastueux et indécent. Au Népal, nous avons les mêmes Nepo Kids, et nous avons commencé à les incriminer en ligne.
On trouve notamment un montage vidéo représentant toute une série de Nepo Kids pris en photo devant des monuments du monde entier, avec en fond sonore la musique Money 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 du groupe ABBA. Le pouvoir commence à prendre peur. Alors le 4 septembre, le gouvernement prend la décision d'interdire une trentaine de réseaux sociaux et de sites médiatiques, y compris YouTube, Facebook ou WhatsApp. Le prétexte, forcer les plateformes à respecter de nouvelles règles de modération. Or, dans ce contexte, et dans un pays où 70% de la population n'a pas 35 ans, couper l'accès au réseau est immédiatement vécu comme le franchissement d'une ligne rouge, mue par la volonté de censure pour mettre un voile sur l'injustice. Une trentenaire confie à Mediapart.
Au Népal, beaucoup de personnes dépendent des réseaux sociaux pour leur gagne-pain. L'interdiction a été un coup dur. Je fais partie des jeunes qui tentent de se construire une carrière ici. Je ne veux pas partir, je ne suis pas intéressée par les pays européens ou les États-Unis. Or, les réseaux sociaux sont nécessaires à mon activité professionnelle. Et l'interdiction a été imposée sans alternative, malgré les pétitions. Le ministre de l'Information a fait preuve d'intransigeance. Peu de parlementaires ont été consultés, alors cette décision nous a semblé arbitraire. Nous sommes donc descendus dans la rue, en particulier la génération Z.
Immédiatement, le drapeau pirate de One Piece apparaît comme référence silencieuse à l'Indonésie. Une manifestante affirme
« Ils se rebellent, luttent pour la liberté, et maintenant c'est notre tour !» Le monde corrompu de One Piece reflète notre pays aujourd'hui, et il est temps de se lever et de se rebeller.
We got the freedom of speech, we are the next generation. We will fight for our rights and try to build a better nation. We're against the violence, every fight for liberation, freedom of the people. We won't stop until we're gonna get there.
Lors de cette première journée de manifestation, aux environs de midi et alors que tout est très calme, la foule avance, les bras levés vers le Parlement, tout en réclamant la démission du Premier ministre. Et là, sans prévenir, la police se met à tirer à balles réelles. Dans la tête du cortège, c'est la panique. Personne ne s'y attendait. 19 personnes sont tuées sur le coup. 3 autres décéderont le lendemain de leurs blessures. Et à l'autre bout du pays, 2 personnes sont également assassinées par la police. Près de 500 personnes sont officiellement blessées et soignées dans les hôpitaux. Face à l'indignation, le gouvernement ordonne le soir même le rétablissement des réseaux sociaux, ainsi qu'une enquête indépendante sur les conditions de cette répression. Un couvre-feu est aussi décrété pour la nuit et toute la journée du lendemain à Katmandou. La jeunesse népalaise va alors avoir une réaction extrêmement courageuse. C'est qu'ici, on est dans l'attente du décollement économique du pays tant promis, après près de 250 ans d'une monarchie qui s'est éteinte en 2008. Cette année-là, après 4 ans de guerre civile entre le dernier roi du Népal qui voulait rétablir la monarchie absolue, un monde étudiant et syndical en lutte et une guérilla maoïste qui a fini par contrôler 75% du pays, des élections libres sont convoquées. Elles sont remportées par les communistes maoïstes qui installent une république en promettant un capitalisme démocratique. 7 ans plus tard, une constitution est enfin adoptée. Elle est source d'espoir et accompagnée de nombreuses promesses. Or, par la suite, si les gouvernements soi-disant communistes se succèdent, ils pratiquent un capitalisme de connivence et les scandales de corruption se succèdent, aboutissant à la situation que l'on connaît. La population est finalement laissée pour compte, le PIB par habitant demeure le plus faible de cette région du monde et le travail informel représente 82% de l'activité. C'est dire la frustration que ce régime a générée. Durant 20 ans, le peuple a attendu un changement à 180 degrés qui n'est jamais arrivé. Et les nouveaux rois ont simplement remplacé l'ancien. Alors, face à cette violence, et malgré les concessions minimes du gouvernement, le matin du 9 septembre, la jeunesse revient. Faisant fi du couvre-feu, elle envahit les rues de Katmandou. Yojan Rajbandari, étudiant, confie. Une 20aine de personnes ont été assassinées par l'État. Ils doivent assumer la responsabilité de toutes ces vies perdues. En prévision de potentielles évacuations d'urgence des responsables politiques, les vols réguliers de l'aéroport de Katmandou ont été annulés. On dénombre bientôt plus de 300 hauts fonctionnaires sur le tarmac, prêts à monter dans des avions. C'est alors que les premières fumées noires s'élèvent de la capitale népalaise. Plusieurs cortèges parcourent la ville, insaisissables, et incendient tout ce qui sur leur passage ressemble à un lieu de pouvoir, à une résidence de politiciens ou à un symbole de l'État. D'abord des voitures, puis les commissariats, et bientôt la foule parvient à rentrer de force dans le quartier gouvernemental de Bansepati. Plusieurs ministères sont très vite en proie aux flammes. Les ministres démissionnent d'ailleurs les uns après les autres, en commençant par celui de l'intérieur. Les forces de sécurité du régime ont la tête coupée. Les mutineries se succèdent dans les prisons, et au total, 13 500 prisonniers parviennent à se libérer et à s'évanouir dans la nature. L'ancien palais de Sinjadurbar, siège du gouvernement, est lui aussi incendié, ainsi que la Cour suprême et le Parlement. Puis les jeunes, parfois si jeunes qu'ils sont en uniforme de lycéennes ou de collégiens, vont chercher les responsables chez eux. Les villas de l'élite sont pillées et saccagées. C'est lorsque sa maison personnelle brûle que le Premier ministre annonce enfin son évacuation en hélicoptère et sa démission. L'armée dit alors prendre les commandes pour assurer le retour au calme. Et immédiatement, le président du Népal convie des porte-paroles de la jeunesse pour trouver une personnalité qui conviendra à toutes et tous au poste de Premier ministre. Dans les jours qui suivent, les débats se déploient sur les réseaux sociaux, en particulier sur Discord, réseau de discussion conçu à la base pour le jeu vidéo. Tout le monde donne son avis et des personnalités sont plébiscitées ou au contraire rejetées par une majorité.
The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue.
Une journée aura suffi. Comme au Bangladesh un an plus tôt, le pouvoir politique et le pouvoir militaire acceptent de se faire dicter le nom de celle qui sera première ministre par la jeunesse, qui s'organise en ligne. Et le 12 septembre, Sushila Karki accepte le poste. Il s'agit de la présidente de la Cour suprême, magistrate éloignée du système des partis à la réputation de personne transparente et incorruptible, souvent d'ailleurs investie sur des affaires de détournement de fonds. C'est aussi la première femme à prendre la tête du pays. La procédure est bien entendu inhabituelle et totalement inconstitutionnelle. Et les jeunes de Katmandou célèbrent leur victoire en plaisantant. C'est la première chef de gouvernement à être élue sur Discord. Son premier geste, pour contenter les plus radicaux qui exigeaient un refondement politique total, est de dissoudre le Parlement et d'appeler à de nouvelles élections en mars prochain. Elle a aussi annoncé la prise en charge par l'État de tous les soins pour les victimes de la répression, la reconnaissance des personnes assassinées par les forces de sécurité comme des martyrs de la nation, et le versement par l'État de réparations financières à leurs familles. Tout au long du mois de septembre, les manifestations se poursuivent pour accompagner les transformations à venir. La Gen Z veut montrer qu'elle veille. Karan Kulung, 18 ans, explique.
Avant, je pensais partir à l'étranger pour saisir de nouvelles opportunités, car je pensais qu'il n'y avait pas d'avenir ici après avoir terminé mes études secondaires. Mais maintenant, mon point de vue a changé. Mon objectif est désormais de contribuer à la construction du Népal et de créer un avenir meilleur ici.
En Indonésie, la victoire de la jeunesse népalaise a un retentissement énorme. Mais quant à penser que cela suffira pour réveiller immédiatement les velléités de renverser le président, rien n'est moins sûr. Alors que le dimanche 14 septembre, la police et l'armée patrouillent conjointement dans les grandes villes, des rassemblements épars tentent encore de faire entendre de la voix. Malgré la colère et le ressentiment, la répression a clairement mis les protestations en pause. Une militante exprime l'état d'esprit général.
Rester chez soi est donc devenu stratégique. Non seulement pour se protéger individuellement, mais aussi pour le bien du pays. On ne veut pas que nos manifestations servent de prétexte à une intervention militaire.
Après coup, des informations sont révélées, notamment par le magazine Tempo. Au pic des manifestations, le ministre de la Défense aurait proposé au président de déclarer la loi martiale. L'armée aurait intimé aux milices communautaires de se préparer à une potentielle intervention militaire dans le champ civil. Des militaires infiltrés dans les manifestations auraient œuvré dans le sens du chaos pour au moins justifier, sinon encourager une intervention militaire. Côté répression, des faits de torture en détention sont largement dénoncés et des 600 personnes incarcérées, nombreuses sont celles qui sont privées de toute assistance juridique. Pourtant, personne n'estime que le mouvement ne soit terminé. Pour les plus jeunes, le gouvernement ne fait que gagner du temps et la révolte est inéluctable. Daniel confie ainsi.
Le mécontentement est palpable. Les nouvelles générations Y et Z qui descendent dans les rues ces dernières années sont plus globalisées et moins révérencieuses que leurs aînés. Et elles expriment ouvertement leur colère et leur désenchantement face à des politiques injustes.
Ce même 14 septembre, la Fédération des chauffeurs de taxi-moto envoie un ultimatum au gouvernement. Évoquant directement le Népal, l'assaut des chauffeurs prévient que c'est la colère et le comportement antipopulaire des autorités qui a mené là-bas à l'explosion.
La même chose pourrait se produire en Indonésie. Il y a une bombe à retardement qui finira par grossir et exploser. Niatnya ngadu, tapi yang duduk di kursi sibuk main sudoku. Angkat tangan katanya setuju, padahal naskaru aja belum mereka tuju. Mic-nya lah, tapi otak mati. Gaji tinggi kerja kayak nonton sinetron pagi. Rapat kosong, absen tetap isi. Cuma datang pas mau selfie sama menteri. Gue tanya mana janji kampanye lo. Dia jawab tunggu 5 tahun. Bro, gue yang 5 tahun lalu belum lo lunasi. Biar tenang nanti gue bahas pas reses di Bali. What? Tikus di gedung putih, hey, maksud gue DPA. Serojiji tanggaran sampai bolong, tapi tampil necis dan benar. Duduk kayak dewa, bicara kayak nabi.
C'était le deuxième épisode de l'actu des oubliés. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les sources de cet épisode sur notre audioblog L'actu des oubliés. Au doublage, c'était Marie-Lou. Et en musique, vous avez pu écouter trois chansons créées durant les dernières protestations au Népal. Gen Z Nepal Youth Protest, Gayal Freestyle de Xigod, Gen Z Protest de Blinks, et en ce moment, vous écoutez Hip Hop du rappeur indonésien Tikus dit DPR. Merci à tous, belle lutte et prenez soin de vous. Masuk laci, dikasih stempel. Bukan prioritas pagi ini. Mau panggil KPK, mereka ngumpet. Kayak bocah nyolong permen, tapi pinter buat skrip. Tiap kasus ditutup rapi, dibungkus pasal-pasal absurd yang bunyinya ambigu. Tapi kalau rakyat kritik, langsung dilaporkan. Cuma karena nyebut nama anggota.